Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Écoutons ce que déclare la Bible.
Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu.
Voici donc le sujet de notre série de discussions actuellement. Que signifie être un enfant de Dieu? Et comment vivre en tant qu'enfant de Dieu?
Ian s'entretiendra avec André afin d'approfondir notre compréhension sur cette vérité si précieuse.
Bonjour André, et merci de vous joindre à nous pour nous parler de ce thème biblique si important.
Merci Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons parlé de la correction, à laquelle tout parent a quelquefois recours afin de reprendre son enfant. Et nous avons appris que Dieu aussi corrige ses enfants pour le bien, afin de faire d'eux des personnes plus matures, plus justes et intègres. André, de quoi allons-nous discuter aujourd'hui?
Nous allons parler de certaines attitudes auxquelles nous devons aspirer si nous sommes enfants de Dieu. Il s'agit notamment de la confiance et de la soumission.
Ces deux attitudes ont marqué la relation qui liait Jésus à Dieu, son Père, me semble-t-il.
Il est vrai que nous en avons déjà parlé lorsque nous avons considéré l'exemple que nous trouvons en Jésus, et il serait bon d'y réfléchir à nouveau. Voilà donc la leçon que nous devons retenir. Puisque Dieu, notre Père, est digne de confiance, nous pouvons nous soumettre à sa volonté.
Pensez-vous un texte biblique appuyant vos propos?
Oui, écoutons un extrait de l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34. Jésus exhorte la foule qui l'écoute.
Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » « Avec quoi nous habillerons-nous ? » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Jésus déclare que notre Père céleste connaît tout ce dont nous avons besoin.
Oui, tout bon parent comprend quels sont les besoins de ses enfants et met tout en œuvre pour y répondre, afin qu'ils se développent au mieux et deviennent des adultes forts. Dieu, quant à lui, est parfaitement au courant de tout ce qui nous affecte dans la vie, de tout ce qui nous touche, de tout ce qui nous arrive. Il connaît tout, dans les moindres détails. Il nous connaît parfaitement et se soucie de notre bien-être. Il tient compte de nos véritables intérêts. De plus, Dieu est tout-puissant et il est absolument capable d'intervenir en notre faveur afin de pourvoir à nos besoins selon sa volonté.
Savoir que Dieu s'occupe de nous, comme un bon père le fait, devrait nous aider à ne plus nous inquiéter.
Oui, et voilà le but de cet enseignement. Malheureusement, les raisons de s'inquiéter dans la vie ne manquent pas, mais Jésus désire apaiser nos cœurs et nos pensées en nous exhortant à mettre notre foi en Dieu, notre espérance en notre Père céleste, car il est digne de confiance.
Il est vrai que lorsque nous nous tournons vers Dieu et lui remettons nos vies, confiant qu'il est là et qu'il nous garde, il ne nous rassure pas sa présence.
Oui, et lorsque nous sommes très préoccupés, voire inquiets, il est indispensable de nourrir nos pensées de vérité biblique afin que notre foi soit fortifiée et nos cœurs apaisés.
Nous savons alors que Dieu est un Père digne de confiance. Toutefois, je veux penser à certains de nos auditeurs pour qui les expériences de la vie semblent prouver le contraire. Je vous cite un exemple, un père de famille tombe malade. Il est mourant et ne peut plus travailler, plongeant du même coup sa famille dans le besoin. Oh, nous affirmons que Dieu, notre Père, veille sur eux, qu'il est au courant de ce qu'ils vivent, Et pourtant, la situation persiste et cette famille s'enfonce de plus en plus dans la pauvreté.
En effet, de nombreux chrétiens rencontrent des situations extrêmement difficiles. Leurs épreuves peuvent durer et l'Éternel semble absent alors qu'ils espèrent tant son secours.
Que dire alors?
Certains interpréteront de telles circonstances comme la preuve que Dieu ne les aime plus, comme un élément de sa désapprobation, comme une preuve de son châtiment ou de son rejet. Or, même si certains parents sont capables d'abandonner leurs enfants ou de les rejeter en disant qu'ils ne s'occuperont plus jamais d'eux, Dieu, en tant que père, n'agira jamais ainsi. Jamais il ne nous délaissera. C'est pour cela que nous ne devons pas conclure, à partir de la souffrance qui nous afflige, que Dieu ne nous aime plus.
Ces paroles sont rassurantes, car certains, comme les amis de Job l'ont fait, peuvent vouloir nous accuser ou nous condamner à cause de ce qui nous arrive.
Oui, et une telle attitude est affligeante et n'aide personne. Je veux toutefois chercher à répondre à votre question. Pourquoi Dieu, en tant que Père bien intentionné, permet-il les épreuves, dont certaines semblent durer indéfiniment, n'offrant même pas aucune issue favorable? D'abord, il faut se rappeler que nous vivons dans un monde maudit. À cause du péché, le monde entier vit sous la malédiction de Dieu. Et le chrétien n'est pas épargné des malheurs qui peuvent toucher n'importe lequel d'entre nous. Toutefois, le chrétien sait qu'il vivra un jour dans un monde meilleur, qu'il ressuscitera d'entre les morts pour vivre éternellement avec Dieu, pour connaître une vie qui ne sera plus jamais marquée par les malheurs, ni par le péché ou la mort. Nous devons garder en vue cette espérance du destin éternel de Dieu pour nous. Ensuite, Dieu se soucie de nos progrès et de notre maturité spirituelle. Ce sont les difficultés et la souffrance qui révéleront l'authenticité de notre foi. Si, au sein de l'épreuve, nous parvenons à nous confier en Dieu et demeurerons soumis à sa volonté, notre foi n'en sera que fortifiée, notre connaissance de Dieu, notre Père, s'approfondira. De même, la souffrance peut nous aider à mieux accomplir la volonté de Dieu, à être plus aptes à aimer ou à consoler d'autres qui souffrent. Car nous-mêmes, après avoir passé l'épreuve, nous serons devenus capables de comprendre la profondeur du chagrin de ceux qui peuvent être affligés.
Autrement dit, nous devons apprendre à regarder au-delà même de nos épreuves, aussi pénibles soient-elles. Nous devons contempler l'œuvre que notre Père Céleste désire accomplir en nous, à travers les situations les plus douloureuses.
Oui, et n'oublions pas qu'en ceci, le Seigneur Jésus-Christ est notre exemple. Il est resté confiant et soumis à Dieu, même devant l'épreuve de la croix, car il avait en vue la gloire qui allait en découler. Nous ne comprendrons jamais tous les mystères liés à la souffrance, ni la raison pour laquelle notre Père céleste nous conduit sur certains sentiers si difficiles. Cependant, Dieu a prouvé maintes fois qu'il était digne de confiance. Nous le rencontrerons un jour dans les lieux célestes, où tous nos maux cesseront. Aujourd'hui, si nous cheminons sur des sentiers douloureux où l'épreuve frappe, soumettons-nous à Dieu, confiant que notre Père céleste sait ce que nous vivons. Il voit toutes choses et avec l'épreuve, il nous donnera aussi le moyen d'en sortir pour que nous puissions la supporter.
Nous continuons dès à présent notre série de courtes méditations bibliques dont le sujet porte sur la personne de Jésus-Christ, tel qu'il nous est présenté dans le livre de l'Apocalypse.
Le livre de l'Apocalypse fut écrit par l'apôtre Jean, qui reçut des visions extraordinaires de la part du Seigneur Jésus. Le but de son livre est d'encourager les chrétiens à tenir ferme quand ils sont confrontés à la persécution et à la souffrance. Jésus les encourage à persévérer durant les moments difficiles, en gardant les yeux fixés sur leur récompense, qui est éternelle. Écoutons donc Apocalypse, chapitre 2, verset 7.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Je cède à présent la parole à notre invité Jean-Luc, qui va nous faire part de ses réflexions sur ce verset.
Le texte lu apparaît à la fin d'une lettre que le Seigneur Jésus a adressée il y a plus de 1900 ans à une église située dans la ville d'Éphèse. Pour ces chrétiens, vivre à Éphèse représentait une épreuve. En effet, la plupart de ses habitants étaient de fervents adorateurs d'idoles. La pratique de la magie et de la divination y était courante. L'immoralité avait atteint son comble. Sans parler des faux enseignants qui cherchaient à induire en erreur les chrétiens dans le but de les égarer loin de la véritable foi en Christ. Nous pouvons donc comprendre que la vie pour ces chrétiens était fort difficile. Mais peut-être l'est-elle tout aussi pour vous, cher ami. Les problèmes auxquels vous êtes confrontés ne sont pas forcément les mêmes que ceux rencontrés par les Éphésiens. Mais vous avez besoin, vous aussi, d'encouragement et de forces nouvelles afin de pouvoir surmonter les tentations et les épreuves qui vous accablent. Or, précisément, le Seigneur Jésus nous appelle à être vainqueurs, de même qu'il encouragea les chrétiens d'Éphèse à vaincre les fortes pressions auxquelles ils devaient faire face. Mais comment vaincre? Comment persévérer? Le Seigneur Jésus veut renouveler nos forces en nous rappelant le merveilleux destin qui nous attend, à savoir le paradis, au centre duquel se dresse l'arbre de vie offert aux vainqueurs. Dans Genèse, chapitre 3, l'Éternel a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, merveilleux paradis dans lequel ils vivaient, et il leur a, du même coup, interdit tout accès à l'arbre de la vie. Depuis lors, personne n'y a plus jamais eu accès, mais la promesse du Seigneur Jésus demeure. Notre destinée sera d'entrer de nouveau dans le paradis de Dieu, et d'y manger du fruit de l'arbre de la vie, si, toutefois, nous persévérons par la foi. Avant la chute, Adam et Ève marchaient avec Dieu dans le jardin, heureux et confiants. Ils étaient les amis de Dieu. Ils le voyaient et le contemplaient. De surcroît, leur vie n'était pas gâchée par tous les maux et les malheurs qui nous affligent aujourd'hui. Ainsi, selon sa promesse, nous bénéficierons de cette vie merveilleuse au moment où nous entrerons dans le paradis de Dieu. De plus, nous pourrons manger de l'arbre de la vie. Nous vivrons pour toujours. L'arbre de la vie est le symbole du don de la vie éternelle. C'est ainsi que dans cet endroit privilégié, nous ne rencontrerons plus jamais la mort. Quel bonheur! Gardons donc nos yeux fixés sur cette espérance. Elle nous permettra de persévérer, de surmonter les difficultés et d'être vainqueurs, quand bien même nous serions plongés dans la pire des circonstances.
Merci Jean-Luc pour ces paroles empreintes d'espérance. Nous retrouverons nos deux invités pour la suite de ces séries lors de notre prochaine émission. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.